Europe 1 Sport,
Virginie Fulpin.
Il est 20h23, vous savez l'importance qu'Europe 1 attache au tennis. Alors forcément, quand un monument de ce sport tire sa révérence, on lui rend hommage comme il se doit. Roger Federer arrête sa carrière gigantesque. À 41 ans, la légende suisse aux 20 titres du Grand Chelem, à l'élégance inégalée, va disputer la Lever Cup la semaine prochaine à Londres. Et ce sera sa dernière compétition. Alors on savait que ça allait arriver, mais là, ça y est, c'est concret. Roger Federer l'a annoncé notamment sur les réseaux sociaux.
Aujourd'hui, j'ai une nouvelle à vous annoncer. Comme vous le savez, ces trois dernières années ont été jonchées de blessures et d'opérations. J'ai travaillé dur pour retrouver une forme compétitive, mais je connais aussi les capacités de mon corps et ses limites. Et le message qu'il m'a fait passer a été très clair. J'ai 41 ans, j'ai joué plus de 1500 matchs pendant 24 ans. Le tennis m'a traité plus généreusement que je n'aurais jamais rêvé. Et maintenant, je dois reconnaître qu'il est temps de mettre un terme à ma carrière compétitive. La Lever Cup, la semaine prochaine à Londres, sera mon dernier événement ATP. Je continuerai à jouer au tennis, bien sûr, mais plus en Grand Chelem ou sur le Tour. Pour terminer, au tennis, je t'aime et je ne te quitterai jamais.
Le tennis, je t'aime et je ne te quitterai jamais. Signé Roger Federer, nos invités nous ont rejoints. Charles Laroche, bonsoir.
Bonsoir.
Co-auteur avec Frédéric Valois du livre Federer, un mythe contemporain. Benoît Mélin, bonsoir, qui est en ligne avec nous.
Bonsoir.
Et Cédric Pioline, notre consultant tennis, bonsoir. Alors Cédric, on ne vous entend pas très bien là pour l'instant, mais... Je pense que ça va venir. Vous avez joué contre Roger Federer, donc on va en parler dans un instant. Charles Laroche, on savait que Roger Federer allait prendre sa retraite. On s'y attendait à tout moment, mais ça a été quoi votre réaction quand vous avez entendu les mots sortir de la bouche du maître ?
Je pense que c'est des mots qui sont difficiles à dire à l'antenne, on va dire. Mais ma première réaction, ça a été un choc parce qu'effectivement, on s'y attendait. Mais l'annonce reste malgré tout une surprise parce que c'est venu par un tweet, c'est venu par un message... par une lettre faite aux fans, et finalement la fin ne ressemble pas à celle qu'on aurait tous voulu, c'est-à-dire lui sur un terrain, gagnant un dernier tournoi et disant voilà, j'ai essayé, mais voilà, là c'est vraiment un départ triste et qui vraiment nous emplit d'un sentiment nostalgique qui est vraiment indéfinissable.
Cédric Pioline, on l'a dit, vous avez joué, vous, contre Roger Federer. Alors, on va parler aussi de ce que ça fait de jouer face à lui, mais vous avez ressenti quoi cet après-midi ?
Écoutez, c'est une surprise. On savait tous qu'il se bagarrait pour essayer de revenir suite à ses différentes opérations au genou. Mais c'est vrai qu'on avait toujours cet espoir de se dire il va y arriver, il va une nouvelle fois nous surprendre. Et puis, quand on regarde sa date de naissance, 41 ans cette année... forcément, la réalité est là. Donc oui, c'est un choc d'une certaine manière parce que, mine de rien, les 20 dernières années, quasiment, il nous les a animés. Donc de penser que, voilà, qu'il ne sera plus jamais dans un tableau officiel au départ d'un grand chelem ou ailleurs, oui, ça fait bizarre quand même. Ça fait bizarre de se dire qu'il y a une époque et un cycle qui s'arrête avec la retraite de Roger.
Benoît Mélin, Roger Federer, c'est 20 titres du Grand Chelem, 103 titres en simple, 310 semaines numéro 1 mondial. Mais est-ce que c'est vraiment dans les chiffres qu'on mesure la trace qu'il laisse dans le tennis ? Ça va un petit peu au-delà quand même.
Oui, on ne peut pas s'arrêter aux chiffres, ce n'est pas possible. Enfin, pour moi, Roger Federer, c'était Michel-Ange, quoi. Quand il jouait au tennis, il me repeignait un cours. C'était la Chapelle Sixtine. C'était absolument sublime. Je pense que Richard Gasquet l'a dit aussi quand on lui a demandé de témoigner. Il disait, mais voilà, on était hypnotisés devant la télévision quand on le regardait comme ça à la télé, en train de jouer au tennis. Tout semblait parfait, simple, facile, élégant. On avait l'impression qu'il peignait avec sa raquette quoi, des tableaux, c'était absolument dingue. C'est plus ça qu'on retiendra de Roger Federer, je pense, au-delà des chiffres et de sa carrière complètement dingue. C'est cet esthétisme qu'il avait quand il jouait au tennis. Ça semblait simple, ça ne l'était absolument pas. Pour pouvoir jouer au tennis comme ça, il faut avoir une préparation de dingue, et mentalement, et tennistiquement, et techniquement, et tout ce que vous voulez. Mais il y avait toujours cette sensation de facilité qui, je pense, fascinait les gens.
Alors, je vous propose d'écouter Arnaud Clément, qui a affronté Roger Federer 11 fois. Il l'a battu 3 fois, quand même. Jean-François Pérez l'a joint. Et jusqu'au bout, lui, bah, il espérait le voir continuer.
Oui, c'est vrai qu'à la fois, on s'y attend, mais ça fait quand même quelque chose d'important quand on est passionné de ce sport, quand on a joué, quand on l'a côtoyé. Et voilà, secrètement, on était beaucoup à espérer un dernier exploit, un dernier sursaut, une capacité à battre les meilleurs joueurs du monde, même à 41 ans, on pensait que c'était possible. Mais voilà, physiquement, apparemment, ça peut plus suivre aujourd'hui, quand même, après 2 opérations. Et il y a un côté un peu humain aussi chez Roger Federer qu'on retrouve, et c'est bien normal. Mais c'est vrai que ça fait quand même toujours quelque chose, je pense, à tout le milieu du tennis, et il va y avoir de très nombreuses réactions.
Alors, tu fais partie de ceux qui ont connu les deux facettes, j'allais dire, hein, de la carrière de Roger Federer. La dernière, la plus connue, celle où il est le meilleur joueur du monde, où tu te casses les dents régulièrement sur lui dans des grands tournois. Et puis, tu as connu aussi la première période entre 1999 et 2001-2002, pour faire vite, où tu as réussi à le battre 3 fois. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà quels sont tes souvenirs de cette période-là et de tes 3 victoires, dont 2 en Australie et une, si je me souviens bien, l'année où tu vas en finale?
Ouais, c'est vrai que je fais partie des privilégiés de l'avoir connu à ses tout débuts, quand il était tout jeune, quand il était très nerveux, et quand il jetait sa raquette, qu'il parlait aux arbitres. Et ça, c'est quelque chose qui doit paraître très abstrait pour ceux qui l'ont connu simplement par la suite. Mais ouais, ben, au début, en fait, quand lui est arrivé sur le circuit, moi, j'étais quasiment à mon meilleur niveau, et j'étais meilleur que lui. Et les 3 fois où je l'ai battu, c'était logique. Il n'y avait rien d'exceptionnel pour moi à ce moment-là. Pour moi, c'était dans l'ordre des choses que je le batte. Et puis voilà, après, ce qui est sympa, alors je le dis maintenant avec un petit peu de recul, bien sûr, c'était après, quand il a commencé à évoluer, quand il a gagné son premier grand chelem, et après tout ce qui a suivi, j'ai continué à le jouer assez régulièrement. Par contre, là, je n'avais absolument plus l'ombre d'une chance sur aucun des matchs contre lui. Et voilà, ça, c'était aussi très particulier, très frustrant par moments, parce qu'il mettait, alors on voyait toujours le côté flamboyant, bien sûr, c'est ce qui se voit quand on le regarde jouer, mais il y avait aussi un côté neutralisation, un côté qui faisait aussi très mal jouer ses adversaires, tellement il était capable de varier, de faire des choses différentes, un point après l'autre, et on sortait parfois du terrain avec beaucoup de frustration, en ayant pris une bonne raclée, mais surtout aussi en ayant l'impression de quasiment ne pas avoir pu jouer et pas avoir pu s'exprimer. Donc c'est voilà, assez extraordinaire, en tout cas, quand on est joueur de tennis, passionné de ce jeu, d'avoir pu le côtoyer et le côtoyer pendant toute son évolution.
Comment tu expliques justement le fait qu'il y ait eu cette métamorphose au début des années 2000, que sur, allez, j'allais dire, 2 saisons, ce soit quasiment plus le même joueur? C'est avant tout des raisons psychologiques ou sportives?
Tout va toujours ensemble, hein, de toute manière. C'est vrai que jeune, il était prometteur, hein, tout le monde le regardait quand même avec beaucoup d'attention et suivait son évolution avec beaucoup d'attention. Après, oui, on voyait qu'il y avait quelque chose. Après, c'est toujours difficile d'imaginer, impossible d'imaginer que ce joueur de l'époque allait gagner 20 tournois du Grand Chelem et allait tirer le tennis, allait faire rentrer même le tennis dans une nouvelle ère. C'est pas simplement Roger Federer, un joueur talentueux, c'est un tout.
Un dernier mot, Arnaud, avant de te remercier, sur l'icône, évidemment, sportive qu'il est devenu, l'icône esthétique, j'allais dire ambassadeur absolu du tennis. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui est mérité, qui est logique, qui reflète bien finalement sa personnalité, son palmarès et son élégance aussi, j'allais dire?
Je crois qu'il méritait beaucoup de choses, mais c'est bien sûr, c'est l'élégance, c'est le talent, c'est l'efficacité, c'est le travail, c'est l'évolution, c'est voilà. Après, je trouverais ça, même ça, assez réducteur de dire Roger Federer, c'est l'élégance et le talent, quoi. Voilà, c'est beaucoup 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 de choses, c'est beaucoup plus complexe que ça, c'est beaucoup plus complexe que ça aussi. J'ai un champion comme ça, bien sûr, est forcément fait et se fait avec beaucoup de choses, avec beaucoup de gens autour de lui, et il y a eu chez lui une énorme évolution pendant toute sa carrière jusqu'à la fin, avec la recherche justement du progrès, de la petite chose qui pourra faire que son jeu s'améliore, et on l'a vu jusqu'à la fin, en tout cas cette recherche, et c'est pour ça qu'il fait partie, en tout cas, des plus grands. En tout cas, c'est le plus grand aujourd'hui à s'arrêter.
En tout cas, on sent beaucoup de respect et d'affection à la fois, hein, pour lui te concernant. Ouais, ouais, super.
Oui, bah, vous savez, il y en a beaucoup qui sont comme moi et qui partagent ces sentiments-là pour ce grand monsieur.
J'imagine.
Arnaud Clément, au micro de Jean-François Pérez. Cédric Pioline, vous aussi, vous avez joué contre Roger Federer. C'était au début de sa carrière. Hein. C'était en 1999. C'était en Ouzbékistan, sur dur. Federer l'avait emporté en 2-7. Est-ce que vous vous souvenez de ce moment ou est-ce que vous vous êtes dit qu'il avait quelque chose en plus ?
Très, très bien. Il était tout jeune. Il devait avoir 19 ans de mémoire. Il était au tout début, déjà très bien classé, aux alentours de la, je dirais, 30e 25e, 30e place. Et j'ai vu. Enfin bon, on le connaissait déjà, bien entendu, mais en étant en face de lui, j'ai vu quelque chose de spécial. Quelqu'un qui avait d'abord une vista incroyable. Le petit surplus de temps que tout joueur de tennis essaye sans arrêt de gagner, lui, il l'avait tout le temps. Et puis une façon de, comme on dit un peu dans notre jargon, de tripoter la balle qui n'arrivait jamais de la même manière, avec beaucoup de rotation, quel que soit le coup qu'il effectuait. Donc après, c'est vrai, comme l'a très bien expliqué Arnaud, on pensait tous qu'il allait gagner un grand chelem, peut-être deux, peut-être trois, mais d'avoir réussi cette évolution dans le temps sur une carrière aussi longue, en faisant finalement très peu d'erreurs, en complétant son jeu, en s'améliorant, en développant après son image, en se canalisant, parce que comme Arnaud l'a dit, au début, il était extrêmement colérique. Il a su canaliser ça et puis devenir une machine à gagner, hein, qu'il a été pendant de nombreuses années. Et puis, évidemment, tout ce qu'il a apporté au tennis et finalement la création des deux monstres qui suivent, hein, même si c'est lui le premier qui tire sa révérence avec Nadal et puis par la suite avec Djokovic, c'est lui qui a créé en fait ça, hein, qui les a forcés à progresser et puis à aller chercher ce niveau-là.
Je voudrais qu'on rejoigne au téléphone Isabelle Musy, qui est journaliste suisse à la RTS. Bonsoir Isabelle.
Bonsoir.
Comment on réagit à l'annonce de la retraite de Roger Federer en Suisse ?
Bah avec beaucoup d'émotion, vous pouvez l'imaginer. Alors, évidemment, on s'y attendait, on s'y préparait. Il y avait beaucoup de rumeurs ces dernières semaines, hein, comme quoi il allait déjà ne plus jouer balle. Et puis voilà que ce matin, de proches de Roger, on a appris qu'il allait l'annoncer aujourd'hui. Et puis, mais on attendait que ce soit officiel. Donc, beaucoup d'émotions parce que, comme je disais, même si on s'y prépare, même si on s'y attend, on a l'impression que finalement, il va être éternel. On se disait, voilà, peut-être qu'il va quand même pouvoir y arriver et tout. Et alors que finalement, bah, 41 ans avec tous les problèmes de genoux qu'il a eu. C'est finalement logique qu'à un moment donné, ils doivent raccrocher. Mais voilà, beaucoup d'émotions, évidemment, parce que c'est une icône. Mais comme le disait très justement un de nos ambassadeurs, le champion s'arrête, mais la légende s'installe. Il est heureux, il va continuer d'exister. L'humain est encore là et va continuer de nous apporter des choses, mais c'est vrai qu'on voilà les frissons de finale de Grand Chelem et tout ça, on les aura plus et c'est un peu triste.
Forcément, il faut digérer cette information. Merci beaucoup Isabelle Musy. Charles Laroche, quelle trace va laisser Roger Federer, c'est-à-dire l'avant et l'après Federer? Qu'est-ce qui a changé avec lui dans le monde du tennis?
Je pense qu'il va garder la même trace que Michael Jordan a eu au basket ou Mohamed Ali dans la boxe. C'est-à-dire qu'il a fait changer son sport de dimension. Borg l'avait déjà fait par le passé, mais il a fait de son sport un sport véritablement complet. C'est l'un des rares joueurs qui pouvait gagner sur toutes les surfaces, qui pouvait gagner longtemps. Gagner un tournoi du Grand Chelem après 30 ans avant, c'était un exploit, mais impensable. Et maintenant, c'est presque devenu la norme. Et finalement, il a montré un terrain où l'impossible n'est plus tout à fait. Et dans son sillon, il a entraîné deux autres monstres qui ont prouvé qu'on pouvait même aller encore plus loin. Et je pense que ce qui va rester, c'est évidemment le joueur, la beauté du jeu et aussi une personne. Parce que ce qui est extraordinaire, c'est que c'était aussi un héros très humain qui était capable de gagner, mais aussi de perdre. Et qui avait une classe immense, y compris dans la défaite. Ça, je pense que ça va énormément nous manquer et même ça me manque déjà. Je pense que pour le dire, depuis 6 heures, j'ai toujours du mal à digérer la nouvelle.
Alors, des défaites, oui, surtout des victoires. Parmi les moments marquants, il y a forcément sa victoire à Roland-Garros, parce qu'on est français. C'est le seul tournoi du Grand Chelem que le maître, comme on l'appelle, n'a gagné qu'une fois. C'était en 2009 et on va revivre la balle de match de la finale face à Robin Söderling, commentée par Corinne Boulou pour Europe 1.
Ça y est, allez, il est au service. Le silence se fait. Roger Federer pour l'histoire. Un premier service, oui, ça y est. Il s'agenouille, Roger Federer. Il vient de remporter pour la première fois Roland-Garros. L'homme désormais aux 14 Grand Chelem, 14 titres en Grand Chelem. Il égalise le record de Pete Sampras. Ils se saluent, les deux joueurs.
Europe 1, la radio officielle de Roland-Garros. Benoît Mélin, ça représente quoi dans sa carrière à Roger Federer, cette victoire à Paris ?
Oh là là, ça représente énormément. Il avait tellement de fois perdu contre Rafael Nadal en finale avant. En 2006, en 2007, en 2008, il avait pris une correction face à Rafael Nadal. Il avait perdu 6-1, 6-3, 6-0. Et puis là, tout d'un coup, en 2009, Rafa se blesse, ne peut pas continuer le tournoi et il se retrouve en finale contre Söderling. Alors qu'il avait failli perdre avant contre Tomias, on se disait « mais c'est pas possible ». Et même lui le racontait quand il prenait la voiture officielle pour venir au stade, quand il s'arrêtait au feu. Les gens l'acclamaient en disant « c'est toi qui vas gagner cette année, tu peux pas rater, Nadal n'est plus là, tu vas gagner ». Donc il s'était fait une image déjà de gagner Roland-Garros. Et il le disait juste avant cette finale, il combattait justement toutes ces pensées-là qui étaient en train de lui polluer la tête pour ne pas penser à ce titre, à ce Roland-Garros, ce tournoi-là qu'il n'avait jamais gagné. Et quand il l'a gagné, qui a été dingue d'ailleurs dans l'histoire, c'est le seul joueur qui a été autorisé à avoir le trophée de Roland-Garros, le vrai, parce qu'en général, vous ne partez pas avec le vrai, c'est une réplique, et bien lui a eu le droit de dormir avec, dans l'hôtel, avec garde du corps à l'entrée de sa chambre, mais il avait eu le droit d'avoir le trophée toute la nuit, seulement pour lui. Ça a été quelque chose de magique de gagner Roland-Garros pour lui.
Merci beaucoup Benoît Mélin d'avoir participé à Europe 1 Sport. Alors, Roland-Garros, évidemment, mais le royaume de Roger Federer, Charles Laroche, ça reste évidemment Wimbledon. C'est sur le gazon anglais qu'il a d'abord construit sa légende. Finalement, ce n'est pas à Wimbledon, mais c'est quand même à Londres qu'il va prendre sa retraite, dire au revoir avec la Lever Cup la semaine prochaine. Même la fin, elle est bien orchestrée, on va dire.
Oui, et la fin en plus arrive dans une compétition quand même qu'il a créée sur mesure et qui en elle-même porte un peu, j'ai envie de dire, le poids des traditions, parce que c'est un hommage à Rod Laver, qui est quand même l'un des plus grands pionniers de ce sport. Et ça montre aussi le côté un peu businessman de Federer qui termine aussi sur cette note. Et puis, ça peut être une fin théâtrale parce qu'il y aura quand même les trois géants qui seront réunis dans la même équipe. Et on peut imaginer que le moment où il y aura la dernière balle de match de Federer, le moment où ça sera vraiment les vrais adieux, là, je pense qu'il va y avoir de l'émotion un peu partout dans le monde.
Lors d'un double avec Nadal.
Philippe Doucet, voilà. Je voulais demander d'ailleurs à Cédric Pioline... Le double avec Nadal, enfin non mais on le sait qu'on va pleurer, on le sait.
oui, je pense qu'il y en aura beaucoup, surtout à Londres où ils sont assez, ils peuvent être assez émotifs à ce niveau-là, mais oui, c'est vrai, vous l'avez dit, c'est bien orchestré, c'est quand même évidemment que c'est pensé aussi. Il y a un retentissement énorme. C'est son événement, comme ça vient d'être dit, qu'il a créé, donc dont il est, allez, on va dire co-actionnaire, puisqu'il y en a plusieurs qui sont actionnaires pour cet événement. Donc oui, c'est vraiment, c'est un beau moment. Je crois que c'est bien, et je crois que tout athlète rêve de contrôler ou de pouvoir être décideur, je dirais, de sa sortie. Et lui, voilà, il a décidé de le faire là, à Londres. Donc je trouve que c'est bien, c'est mérité. Il aura les hommages qui lui sont dus. Il y aura, ça a déjà dû démarrer beaucoup, beaucoup de réactions, bien au-delà du monde du tennis. Voilà, on mesurera, je pense, petit à petit, le vide qu'il va laisser. Et puis, comme toujours, la nature... va remplir ce vide et on passera sur d'autres champions, dont un qui est déjà né à l'US Open, le jeune Espagnol Alcaraz.
On va maintenant écouter Gilles Moreton, qui est le président de la Fédération française de tennis. Il a répondu à Jacques Vendroux. Il s'attendait évidemment à l'annonce de la retraite de Roger Federer.
Bah, écoutez, d'abord, on s'y attendait quand même depuis quelques temps, malheureusement. C'est la perte de quelqu'un qui va manquer énormément au tennis de par son attitude, de par son jeu. Je crois qu'il a révolutionné un peu le tennis avec une élégance sur le terrain et puis un style de jeu qu'on ne retrouvera pas. Donc c'est une grande tristesse. On s'imaginait pouvoir peut-être l'avoir une dernière fois au Rolex Paris Masters en fin d'année et éventuellement à Roland-Garros l'année prochaine. Mais il a décidé, en tout cas, peut-être que son corps lui a demandé d'arrêter et donc on regrettera énormément Roger Federer.
Est-ce que c'est le meilleur joueur de tous les temps ?
Alors, le meilleur, probablement sur le jeu, sur la technique, sur la pureté, c'est probablement le meilleur joueur et le plus complet. Il y a eu des très bons joueurs de service volé avec Pete Sampras, il y a une exception avec Rafael Nadal qui est un joueur de caractère avec un jeu très complet, mais pas en direction du filet. Roger Federer, même s'il n'a gagné qu'une fois à Roland-Garros, avait vraiment avait l'élégance, la technique, le jeu, et donc on va le regretter pour ça, parce qu'il a donné envie de jouer au tennis à énormément de gens, parce que tout semblait facile dans sa raquette. Il était capable de jouer à l'intérieur du court, il était capable de monter au filet. Voilà, on va forcément le regretter. Et je ne sais pas qui va le remplacer, quel style de jeu va pouvoir remplacer le génie qui était Roger Federer.
Et en plus, un gentleman dans la vie, en dehors du tennis.
Oui, je crois qu'il a très très bien géré sa carrière. Hein. Il a su manager son équipe autour de lui, qui ne s'exprimait quasiment jamais. Donc on n'avait pas de bruit, de bruit de couloir, de coulisses sur ce qui se passait à l'intérieur. Donc nous qui sommes de l'intérieur, on savait un petit peu ce qui se passait, mais il a magnifiquement géré son image. Il est un joueur qui a apporté énormément au tennis et qui peut demain, de par son attitude, je l'espère, apporter beaucoup. Le tennis a besoin de joueurs comme ça qui s'investissent derrière, et je pense que Roger Federer, avec la trace, l'empreinte qu'il a laissée sur le tennis, peut faire encore beaucoup. En tout cas, moi, je l'espère.
Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire ?
Merci, tout simplement. Merci pour ce qu'il a apporté. Merci pour pour ses coups géniaux sur le court. Merci pour sa technique pure. Merci pour sa passion. Parce que avant tout, c'était un passionné de tennis qui regardait tous les matchs, qui détaillait un petit peu le détail, la technique, la pureté, et qu'il appliquait pour lui-même. Et avec quelle aisance et quelle excellence. Donc voilà, je crois que ce qu'il a apporté, comment va-t-il pouvoir le redonner ou à quelqu'un ou à un organisme dans le tennis. J'espère qu'il restera dans le tennis près du court et qu'il nous apportera encore de merveilleuses choses.
Merci Gilles Moreton.
Gilles Moreton, le président de la Fédération française de tennis. Roger Federer va donc prendre sa retraite à 41 ans, deux semaines après l'annonce de celle de Serena Williams. C'est vraiment toute une époque là qui s'en va. Merci beaucoup à nos invités. Cédric Pioline, je peux vous demander si vous n'avez pas une place par hasard pour la Lever Cup ?
Non, malheureusement, non. J'irai pas, même pas moi-même.
Ça, ouais,
non,
ça se tente.
Je pense que là, s'il y avait eu encore des billets à vendre, je pense qu'avec cette annonce, là, ils sont sold out.
Oui, on a vu, ça s'envole les prix d'ailleurs. Merci beaucoup Cédric Pioline. Merci à Charles Laroche. On rappelle le nom de votre livre, Federer, un mythe contemporain, aux éditions Solar. Merci à Benoît Mélin et à Isabelle Musy qui ont participé à cette page tennis pour dire au revoir à Roger Federer.